L'émission L'heure juste qui se poursuit, je vous le disais d'entrée de jeu, on veut parler santé mentale parce qu'on sent que c'est précaire, c'est difficile la situation actuelle qu'on vit, la pandémie depuis près d'un an maintenant. On dit que ça exacerbe les problèmes, les réalités. Hein? Et la santé mentale, on sent que ça a passé aussi dans le tordeur pour plusieurs. Des témoignages de gens qui disent qu'ils avaient besoin de ressources. Et là, il y a tellement de gens qui nécessitent des besoins en santé mentale que l'attente est plus longue. On doit référer au privé. Bref, c'est une situation qui nous concerne et qui nous touche directement. Et pour nous en parler aujourd'hui, on est au bout du film. Christine Gervais, vous êtes professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais et chercheure au Centre d'études et de recherche en intervention familiale. Bonjour, Mme Gervais.
Bonjour.
Vous avez, avec votre collègue Isabelle Côté, réalisé une étude dans les derniers mois, en fait depuis le mois de mai, sur l'expérience de la pandémie des jeunes Québécois, mais de leurs parents. Donc, c'est un spectre qui couvre assez large dans la population. D'entrée de jeu, parlez-nous du travail de recherche que vous avez réalisé justement dans les derniers mois.
Oui, bien sûr. Alors, dès le début de la pandémie, avec mes collègues, on s'est intéressé à savoir comment les enfants, comment les adolescents pouvaient vivre la période du confinement et puis aussi comment leurs parents vivaient ça, parce que les enfants, pendant la période du confinement, étaient majoritairement et en fait exclusivement avec leurs parents. Donc, c'est sûr que la santé mentale et le bien-être du parent devient vraiment déterminant pour l'enfant et pour son bien-être. Donc, avec ma collègue Isabelle Côté, on fait beaucoup de recherches auprès des enfants, puis on s'est intéressé à comment eux peuvent vivre cette situation-là qui est complètement inattendue, qui est nouvelle, qui arrivait avec son lot d'incertitudes, de peurs aussi. Puis, donc, on a développé une étude de réaction, récit d'enfants et d'adolescents sur la COVID, et on a rencontré 200 enfants. On voulait les rencontrer à trois reprises. Il y en a 150 qui ont fait les trois temps de mesure. Donc, ils ont rencontré à la fin du premier grand confinement, fin du mois d'avril, début du mois de mai. On les a rencontrés à la fin de l'année scolaire, donc au début du mois de juillet. Et on les a rencontrés à nouveau à la fin du mois d'octobre, début novembre, donc au tout début de la deuxième vague. Et puis, à chaque temps de mesure aussi, un des parents de l'enfant remplissait des mesures standardisées, donc un questionnaire en ligne sur sa propre santé mentale.
OK. Est-ce qu'on a... Bon, vous avez déjà dressé un constat et celui de la santé mentale du parent ou comment le parent vit émotionnellement, tout ça a un effet sur les jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres constats qu'on a pu faire déjà?
En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on constate une expérience vraiment très diversifiée de la pandémie quand on s'intéresse aux enfants. Donc, les enfants, on a fait des entrevues avec eux, les adolescents aussi. Donc, environ 40 minutes par Zoom, une petite discussion. Donc, on a vraiment été plus dans le qualitatif. Ce qu'on voulait, c'était comprendre pourquoi, pour certains enfants, c'est une expérience positive, parce que certains enfants se parlent de manière assez positive de ce qu'ils ont vécu. Pour eux, la pandémie, ça l'apporte. Plus de temps, plus de liberté, des moments de qualité avec leurs frères, leurs sœurs, avec leurs parents. Pour certains, des apprentissages scolaires plus faciles. Alors que pour d'autres, c'est beaucoup de difficultés. C'est de la solitude, c'est de l'isolement, beaucoup d'ennuis, des difficultés scolaires. Donc, on voulait vraiment essayer de voir qu'est-ce qui faisait que les enfants, dans le fond, allaient avoir plus un profil, plus qu'un autre. Puis, c'est ça, regarder dans le fond comment les enfants s'adaptent à cette situation-là, comment ils sont capables d'y créer un sens, puis c'est quoi le soutien qu'ils reçoivent.
Puis qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a tendance à... Moi, j'aurais tendance, personnellement, à dire qu'il y a peut-être des parents qui sont mieux outillés que d'autres à la base. Est-ce que c'est faux?
Non, définitivement, c'est certain. C'est sûr que dans l'échantillon de parents qu'on a rejoints, comme tout se faisait en ligne, on se rend compte qu'on a rejoint des parents, des familles assez favorisées. Donc, c'est des gens qui ont un bon revenu socio-économique, c'est des gens qui sont assez scolarisés et qui sont très, très présents dans la vie de leur enfant. Donc, il faut quand même le mettre en contexte. Là, je pense que ça explique en partie les résultats assez positifs qu'on a en termes d'expérience des enfants. Mais ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que malgré que les parents vivent plusieurs difficultés, donc on a la majorité des parents, on a 65% des enfants qui ont qui ont un bien-être qui est inférieur aux moyennes de population qu'on voit habituellement. On en a 65% qui ont des symptômes d'anxiété qui sont significatifs aussi. Mais malgré ça, les enfants vont assez bien. Donc, les parents arrivent à maintenir un environnement qui est sécurisant pour leurs enfants, à les accompagner dans ces transitions-là, ce qui fait que les enfants subissent pas trop les contre-coups de la pandémie dans les données qu'on a collectées.
C'est intéressant ce que vous dites. Finalement, c'est peut-être papa et maman qui, dans la mesure du possible, absorbent le choc émotionnel ou psychologique, qui font finalement qui filtrent un peu entre ce qui se passe dans la réalité et comment le vivent les enfants. Ce qui m'amène à penser, et j'ai hâte d'entendre votre réponse à ce sujet-là, plus ça s'étire dans le temps, plus peut-être cette capacité-là à filtrer nos émotions s'érode avec le temps, si c'est pour perdurer encore un an ou deux, ou on ne sait pas la pandémie pour combien de temps on a à vivre avec ça. J'imagine que peut-être les parents vont perdre cette capacité-là où elle va s'effriter, comme je disais.
Oui, ça tout à fait. Puis c'est une préoccupation qu'on a beaucoup. Donc, quand on est confronté à une difficulté de manière générale, les adultes, les enfants aussi, mais on le voit surtout chez les adultes, on va mobiliser beaucoup, beaucoup d'énergie pour s'adapter à cette difficulté-là. Puis habituellement, nos stratégies d'adaptation font en sorte qu'on arrive à surmonter la difficulté. Là, la situation perdure, peu importe les ressources qu'on met en place. C'est comme si c'est tellement hors de notre contrôle que ça continue, les défis continuent de s'accumuler. Puis en effet, il y a un risque d'épuisement des ressources, de fatigue qui s'installe chez les parents. Donc, au mois de novembre, la première fois, on a demandé aux parents qu'est-ce qu'ils trouvaient le plus difficile lié avec la pandémie. Puis ce qui sort comme étant le plus difficile, c'est la capacité des parents à assurer un contexte pour leur enfant pour qu'il puisse s'épanouir ou pour qu'il puisse vivre un certain bien-être. Donc, les parents ont de plus en plus de difficultés à maintenir, si on veut, cette espèce de protection-là autour de leur enfant, de le stimuler, de soutenir ses apprentissages, de gérer le temps d'écran. C'est quelque chose qui est sorti aussi comme étant difficile, d'assurer une certaine discipline, puis surtout de limiter les contacts, la proximité des contacts physiques. Donc, ça fait beaucoup de responsabilités sur les parents. Puis oui, en effet, il y a la préoccupation qu'ils finissent par plus avoir assez d'énergie pour assumer tout ça.
J'imagine, et je vous entends rapidement pour qu'on passe à un autre aspect, mais que ça a été pris en compte par la santé publique, cette réalité-là que vous décrivez, lorsqu'ils ont pris la décision de maintenir les garderies ouvertes, les écoles ouvertes pendant ce reconfinement de 2021. C'est sûr qu'ils ont pensé à cela.
Définitivement, c'est certain. Puis comme facteur de protection des enfants, on le sait, leur milieu, leur environnement, l'école, la garderie, ça fait d'autres adultes significatifs qui sont disponibles, qui ont des ressources, qui peuvent en prendre soin. Puis définitivement, c'est pour ça que les écoles sont restées ouvertes, malgré que certains ont des craintes par rapport à la contamination.
Ouais. On vous parle aujourd'hui parce que on vit justement, on vient de le mentionner, un reconfinement. Est-ce que vous sentez que les gens avaient une espèce d'espoir, un certain espoir de 2021? Le vaccin, les vaccins. Et là, reconfinement, même, on peut ajouter à ça, couvre-feu. Est-ce que ça peut être dur pour certaines personnes?
Définitivement. Donc, nous, les données qu'on a recueillies, ce qu'elles démontrent, c'est que pendant le confinement, les parents, c'était assez difficile. Tout le monde était déstabilisé. Il y avait de l'anxiété, il y avait du stress. Après ça, à l'été, tous les indicateurs se sont améliorés. Donc, autant les enfants que les parents, il y avait un meilleur bien-être, ils appréciaient de retrouver une certaine liberté, des activités dehors, certaines activités sociales. Puis là, quand on les a rencontrés à nouveau au mois de novembre, donc on était déjà rendu à des niveaux qui étaient similaires à pendant le grand confinement du printemps. Donc, c'est sûr que là, on rajoute des mesures encore plus restrictives, le couvre-feu, un autre état de confinement. Donc, oui, c'est sûr que l'espèce d'espoir qu'on avait, qu'on va passer au travers, que le vaccin s'en vient, mais tout à coup, ça paraît beaucoup plus loin.
Mm-hmm. On parle des parents, on parle des enfants, mais s'il y a des gens qui sont bien au cœur de cette pandémie-là depuis le tout début, c'est les travailleurs de la santé. On le voit que c'est très difficile. On a vu des histoires comme quoi il y a des préposés aux bénéficiaires, des urgentologues, donc des gens dans le milieu qui étaient tellement épuisés qu'ils ont mis fin à leur vie. Donc, c'est terrible, c'est malheureux. C'est un des contre-effets, en fait, un des effets directs de la pandémie. Qu'est-ce qu'on aurait à dire par rapport à ça? Parce que c'est, on le disait, si les parents servent de tampon entre l'enfant, bien, ces gens-là, eux, reviennent à la maison puis ont aussi des enfants, ont aussi un conjoint. La vie continue. J'imagine que pour ces gens-là, c'est peut-être encore plus difficile.
Oui, définitivement. Puis ce qui ressort par rapport au travailleurs de la santé spécifiquement, on a 20% de l'échantillon qui est constitué de travailleurs de la santé. Mais comme je suis professeure, j'ai aussi quand même une bonne connaissance de ce que vivent les infirmières dans leur milieu de travail. Donc, c'est vraiment l'ambivalence, puis le fait d'être toujours déchiré. Donc, autant quand ils sont à la maison avec leurs enfants, ils ont la pression ou la culpabilité de ne pas être au travail puis de ne pas participer assez ou de l'impression qu'il y a encore plein de gens qui ont besoin d'eux au travail. Puis quand ils sont au travail, ben ils savent bien que leurs enfants sont chez eux, souvent en scolarisation à distance ou pseudo à distance. Ils n'ont plus leur réseau de soutien, donc les grands-parents ne peuvent plus aider nécessairement, les amis non plus. Donc, c'est une culpabilité, peu importe où ils investissent leur temps, ils vivent la culpabilité, ils vivent énormément de fatigue, beaucoup de stress, puis la peur, évidemment, de transporter l'infection, de se contaminer au travail, puis de le rapporter à la maison. Donc, c'est sûr que pour le personnel de la santé, la charge est vraiment très, très grande. Et oui, c'est une période très difficile.
Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer? Est-ce qu'on a quelque chose? On entend souvent le premier ministre dire prendre des marches, aller à l'extérieur, ventiler, changer les idées. Mais on dirait que c'est comme un médicament avec un effet placebo un peu. C'est oui, si on y croit vraiment, ça peut fonctionner, mais quand on revient à la maison, le mal revient. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur suggérer à ces gens-là qui trouvent ça difficile, dont la santé mentale est mise à épreuve?
C'est sûr que ce qui est ressorti comme étant assez positif, c'est les gens qui arrivent à passer à travers cette période-là le mieux, si on veut, c'est aussi ceux qui arrivent à trouver des aspects positifs à la situation. Donc, on a aussi demandé aux parents qu'est-ce que leur permet la pandémie qu'il n'y avait pas avant. Puis il y en a, par exemple, qui en profitent pour passer davantage de temps avec leurs enfants puis qui vont en tirer énormément de satisfaction et de bien-être. Il y en a que ça va être davantage des activités manuelles qu'ils ne prennent pas le temps de faire, donc que ce soit couture, construction, jardinage, des choses plus comme ça. Il y en a que ça va être plus de temps pour eux-mêmes, donc la lecture, prendre des marches, justement, prendre plus relaxé, avoir un rythme qui leur convient mieux. Donc, pour la majorité des gens, la pandémie, ça coïncide avec une période moins occupée. Donc, on peut aussi essayer de profiter de ce temps-là pour faire des choses qui nous font du bien, qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Mais après ça, c'est ça. C'est sûr que ceux qui vivent des difficultés économiques, ça s'ajoute en termes de stress, ça peut devenir plus difficile aussi.
Ouais. On dirait que je vous entends parler, puis je me dis, je compare ça peut-être comme quelqu'un avec une vague, une grande vague. On a le choix on peut en fait essayer de surfer sur la vague ou on se fait emporter par la vague. Il y en a qui sont capables de surfer sur la vague puis de dire, bon, écoute, c'est pas un contexte idéal, mais je fais du mieux que je peux dans ce contexte-là. Puis il y en a d'autres, peut-être parce qu'ils n'ont pas les outils, se font engloutir par la vague et peine à voir le bout de tout ça, là.
Oui, c'est une très bonne analogie que vous faites. Puis, je pense que plusieurs personnes sont très déstabilisées du fait que leur horaire soit bouleversé ou soit rendu inexistant. Le télétravail, plusieurs peuvent travailler un peu selon les horaires qu'ils veulent. De se donner un horaire puis d'essayer de s'y tenir aussi, ça peut être aidant. Donc, de faire une routine plus précise, je me lève à telle heure, je vais prendre une marche avant de commencer ma journée de travail. Se donner des pauses à un moment fixe, puis les respecter, c'est aussi des choses qui peuvent aider.
Madame Christine Gervais, vous êtes professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Vous êtes également chercheure au Centre d'études et de recherche en intervention familiale. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous jaser aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance avec votre étude, puis je pense que collectivement, on souhaite une santé mentale, une bonne santé mentale en 2021.
Définitivement. Merci.